Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi la revue de presse, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel de titre de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie continuera à fixer la promotion du café. Le président assistera au sommet du partenariat ASEAN-Russie. L'Indonésie va organiser Bintan Triathlon. L'IPI effectueront des recherches sur l'île de Sumba, Sulawesi Ouest, et la Papouasie par l'équipe de l'expédition de recherche. Le parc national de Komodo sera orienté d'être une destination de l'écotourisme au niveau mondial. L'ambassadeur Azerbaïdjan souhaite l'Indonésie encourage la paix Nagorno-Karabakh. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre du Commerce Thomas Lembong va améliorer la promotion du café indonésien en introduisant l'Indonésie en tant que producteur de café de haute qualité dans le monde. Le ministre du Commerce Thomas Lembong, lors d'une conférence de presse à Jakarta le vendredi, a déclaré que le café indonésien était moins connu par la communauté internationale. Jusqu'à présent, le café indonésien est mieux connu par la région productrice.
Kami mencoba untuk membenahi branding dan marketing daripada kopi kita.
Nous essayons d'améliorer l'image de marque et la commercialisation de notre café. L'observation au sein du ministère du Commerce, le café est généralement commercialisé comme le café de Sumatra, le café de Sulawesi, le café de Java et le café de Bali. Nous appelons à exposer d'abord l'Indonésie et ensuite Bali, Sumatra et Toraja. Il est important pour nous d'avoir une image de marque nationale. Selon le ministre Thomas Lembong, le café indonésien est l'un des principaux produits à exporter. En 2015, les exportations de café indonésien dans le monde ont atteint 1,19 milliard dollars américains, a augmenté 15% que l'année précédente. Les exportations de café indonésien augmentent, tandis que les exportations non pétrolières diminuent 14%. Selon le ministre, le gouvernement doit mieux organiser l'image de marque et la commercialisation du café. L'Indonésie est choisie comme un portrait d'un pays dans l'Association du café spécialité d'Amérique 2016. Il est fort important de faire la promotion du café indonésien sur le marché international. Le président indonésien Joko Widodo assistera au sommet du 20e anniversaire de la coopération du partenariat ASEAN-Russie et aussi une réunion bilatérale avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à Sotchi, en Russie, du 18 au 20 mai 2016. Le directeur des partenaires de dialogue et interrégionaux du ministère des Affaires étrangères, M.I. Deri Aman, a déclaré récemment que le sommet avait une signification importante compte tenu les chefs d'État et de gouvernement de l'ASEAN et de la Russie se réuniront en Russie pour la première fois. Cela est également la première visite officielle du président Joko Widodo en Russie comme rapporté par Antara, le sommet accordé dans la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Russie 2015 sera également animé par une variété d'activités, entre autres le forum d'affaires ASEAN-Russie afin d'augmenter les contacts commerciaux et d'investissement entre les hommes d'affaires des deux pays. Après être sourcé la première Bintan Triathlon 2015, maintenant Bintan présente à nouveau Bintan Triathlon. L'événement qui se tiendra du 26 au 28 août 2016 à Bintan, les îles de Riau, l'Indonésie, fait partie de l'ordre du jour annuel du ministère indonésien du Tourisme pour attirer les touristes étrangers. Dans une conférence de presse Bintan Triathlon à Jakarta le jeudi 8 avril 2016, un organisateur, le PDG de Metasport, Nathalie Marc, a déclaré que plus de 1000 participants pourraient rejoindre cette année. Elle espère que dans l'année à venir, il y aura 3000 jusqu'à 4000 participants qui animeront cet événement. Jusqu'à présent, il y a eu 500 participants qui se sont inscrits pour participer à Bintan Triathlon, où 7% des participants sont des gens de l'Indonésie. Cette année, les participants couvriront la distance de 1,9 km pour la natation, 90 km de vélo et 21 km de marathon qui doivent être finis dans 7 heures. Nathalie a ajouté que Bintan a rempli les conditions pour devenir une place de la mise en œuvre de cet événement international parce que Bintan possède les infrastructures de classe mondiale. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, a envoyé une équipe d'expédition pour faire des recherches sur l'île de Sumba, Sulawesi Ouest et la Papouasie occidentale pendant 3 semaines. Ces régions possèdent les ressources naturelles de la terre et les ressources naturelles de marine qui sont élevées et uniques, car elles sont situées dans la partie sud de la zone de transition Wallace, où les caractéristiques de la biographie de l'Indonésie, la Malaisie et l'Australie se sont réunies. Le chef de l'IPI, M. Iskandar Zulkarnain, a déclaré vendredi, dans un temps court, les chercheurs sont déjà habitués et seront en mesure d'effectuer des recherches de manière optimale afin de connaître les ressources naturelles et des autres biodiversités. Le chef de l'IPI souhaite également que ces recherches puissent générer les sciences qui peuvent être utilisées par des personnes en Indonésie. Le parc national de Komodo se prépare afin d'être une destination écotouristique de classe mondiale. Cela a été dit par le directeur général de la conservation des ressources naturelles et des écosystèmes du ministère de l'Environnement et des Forêts, M. Tahrir Fatoni, lors d'une visite de travail au parc national de Komodo récemment. Comme cité de Republika, Tahrir Fatoni, lors d'une visite de travail au parc national de Komodo, a affirmé qu'il devait avoir une augmentation des services de confort et de luxe pour les visiteurs en priorisant toujours les facteurs de conservation. Cela est de poursuite la visite du président Joko Widodo à la fin de 2015 qui espère que le parc national de Komodo devienne la destination écotouristique de classe mondiale avec les normes internationales. Le parc national de Komodo est inclus dans les priorités de développement du tourisme des 10 destinations de l'écotourisme gérées par le ministère du Tourisme avec le ministère de l'Environnement et des Forêts. Le parc national de Komodo est un parc national appartenant à l'Indonésie qui a été fixé par l'UNESCO comme la réserve de biosphère et patrimoine mondial. L'ambassadeur Azerbaïdjan en Indonésie, Tamerlan Garayev, a déclaré dans une conférence de presse le vendredi à Jakarta qu'il voulait que l'Indonésie puisse encourager les efforts de paix dans la région Nagorno-Karabakh liés au conflit avec les forces arméniennes. Il espère que les citoyens indonésiens connaissent la vérité sur la situation Nagorno-Karabakh que l'Arménie a occupé leur territoire. Il a dit que l'Indonésie soutenait l'Azerbaïdjan, non pas à cause d'une relation spéciale entre les deux pays, mais pour le droit international. L'ambassadeur Garayev a déclaré que la communauté internationale contre les crimes à l'humanité et le génocide, comme a été fait par l'Arménie dans la zone Nagorno-Karabakh en Azerbaïdjan, si l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale reconnaissent la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur la région, le monde entier devrait exhorter l'Arménie de retirer ses militaires. L'ambassadeur Garayev a souligné « L'Azerbaïdjan n'a pas de problème avec les diverses tribus et religions de la région. » Pour soutenir la paix dans la région, a-t-il dit, les forces militaires de l'Arménie doivent quitter le territoire qui a été occupé pendant plus de 20 ans. Chers amis, c'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la revue de presse. Divers événements importants qui se sont passés pendant une semaine ont été écrits par les quotidiens apparus à Jakarta dans la revue de presse. Nous commençons avec le quotidien Kompas qui a écrit dans son éditorial jeudi 7 avril sur l'infrastructure dans la région orientale. L'inauguration des projets d'infrastructure dans la partie orientale de l'Indonésie par le président Joko Widodo marquant que cette région est plus ouverte. Dans sa visite de travail en Indonésie orientale cette semaine, le président a inauguré maritime et des ponts. On espère que les infrastructures qui sont déjà construites doivent être complètement utilisées et entretenues pour l'amélioration du bien-être des personnes en Indonésie orientale. L'infrastructure est une question importante dans le développement d'une région, mais d'autres conditions doivent également être respectées. Selon Kompas, la construction des ports doit être soutenue par l'approvisionnement des ressources humaines pour faire fonctionner. Il est également un grand défi qui doit être résolu conjointement par le gouvernement central et local en impliquant le monde des affaires. Cependant, le quotidien Média Indonésia a écrit dans son éditorial jeudi 7 avril sur le moment pour discuter la loi sur la taxe d'amnistie. Le Parlement ne discute pas encore le projet de loi sur la taxe d'amnistie. Dans la situation économique qui est encore lente, la loi sur la taxe d'amnistie est comme des vitamines pour que les conditions économiques indonésiennes ne continuent pas à faiblir. La loi sur la taxe d'amnistie est l'une des solutions au milieu de la mauvaise économie mondiale qui a affecté l'économie de la nation. L'amnistie fiscale n'est pas la seule solution pour surmonter le déficit budgétaire. Il y a encore d'autres moyens, y compris de renforcer les efforts de collecter les taxes. Par conséquent, l'amnistie fiscale a ouvert la porte pour le retour des capitaux qui sont investis à l'extérieur sans ajouter de nouvelles charges pour les entreprises, notamment pour la communauté. Chers amis, c'était la revue de presse de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie, l'édition 9 avril. Nous allons commencer le 9 avril 1940. L'Allemagne envahit la Norvège et le Danemark. L'opération Weserobu est lancée par les troupes allemandes à 2h15 à Norvège et à 5h20 au Danemark. Le roi danois Christian X ordonne immédiatement le cessez-le-feu à ses troupes. En Norvège, la population résiste à l'invasion et des croiseurs allemands sont coulés. Un contingent franco-britannique le viendra en aide à partir du 19, permettant de mettre à l'abri la flotte marchande. Hitler justifie cette invention en proclamant « L'Allemagne occupe le Danemark et la Norvège pour les protéger des alliés et faire respecter leur neutralité jusqu'à la fin du conflit. » Enfin, les deux pays bénéficieront jusqu'en 1943 d'une occupation moins violente que dans de nombreux pays. Le Danemark parviendra à faire passer de nombreux juifs en Suède pour les protéger de la déportation. On chance le 9 avril 2003, l'armée américaine prend le contrôle de Bagdad. Après 21 jours de bombardements, les forces américaines prennent le contrôle de la plus grande partie de Bagdad. L'image de la statue de Saddam Hussein renversée par un char américain est diffusée sur toutes les télévisions mondiales. La résistance était très faible. Le jour même, des pillages commencent notamment aux musées archéologiques, dans les hôpitaux et les bâtiments administratifs. On termine le 9 avril 1948, le massacre de masse de Deir Yassin, la Palestine. Le massacre a eu lieu le 9 avril 1948. Ce massacre fait partie de nombreux massacres documentés contre le peuple palestinien par les milices terroristes sionistes visant à transformer la Palestine en un État juif. À cette époque, plus de 270 civils palestiniens vivaient dans le village de Deir Yassin brutalement massacrés par l'organisation terroriste Irgun. L'organisation Irgun est une milice sous la direction de Menachem Begin, un fondamentaliste sioniste éminent qui devint plus tard premier ministre d'Israël. À la suite des actes terroristes, soldats sionistes constamment commis effrayants, un grand nombre de Palestiniens déplacés entourant les zones palestiniennes. Ces auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui de l'édition 9 avril. À demain.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Salut Mlongten, pour la boucle suivante, voici donc la mise au point et pour le titre, le gouvernement forme un groupe de travail des impôts. La fuite des documents du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, mieux connu sous le nom de Panama Papers, qui contiennent les noms des propriétaires de sociétés dans la région libre des impôts à l'étranger ou offshore, contiennent également les noms des entrepreneurs indonésiens. Sur la base des données reçues par Tempo, au moins 899 personnes et les entreprises d'Indonésie sont notées dans les documents qui ont été révélés avec succès par le Consortium international des journalistes d'investigation. La plupart des propriétaires de ces entreprises ont fait le blanchiment d'argent sous la forme de la création de sociétés offshore. Concernant les nouvelles de Panama Papers, le président Joko Widodo a promis d'annoncer bientôt les résultats des études gouvernementales liées aux informations des noms des Indonésiens dans ces documents. Pendant ce temps, le secrétaire du cabinet, Pramono Anung à Jakarta, a déclaré que les données du gouvernement sur les citoyens indonésiens qui investissent à l'étranger sont plus complètes et plus détaillées que les données dans Panama Papers. Le gouvernement est en train de valider les informations entrantes avec le but de correspondre les données avec celles obtenues auprès des autorités fiscales des pays développés qui sont membres du G20. Cela est conformité avec l'affirmation du ministre des Finances, Bambang Brojonegoro, que les données de Panama Papers seront renouées à titre de comparaison. Pour l'enquête, le Centre d'information et de l'analyse des transactions financières, PPATK, a formé un groupe de travail dont les membres sont une combinaison de l'équipe de PPATK et la Direction générale des impôts du ministère des Finances. Ils retraceront les transactions de flux des fonds appartenant à des citoyens indonésiens qui ont été révélés à Panama Papers. La semaine prochaine, le Centre d'information et de l'analyse des transactions financières a le projet de tenir une réunion conjointe avec le groupe de travail de la sécurité des recettes fiscales et le groupe de travail des chasseurs de corrupteurs afin de poursuivre cette découverte. Le chef adjoint de PPATK, Agus Santoso, a déclaré mercredi à cnnindonesia.com que son institution a longtemps mis en évidence le flux de fonds en provenance d'Indonésie à un certain nombre de paradis fiscaux qui sont indiqués le résultat du blanchiment d'argent. Ces pays libres d'impôts sont les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, le Luxembourg, Singapour, la Suisse, y compris le Panama. Agus Santoso a expliqué qu'il y avait 3 étapes d'action qui seront faites par PPATK pour prouver les découvertes du consortium international des journalistes d'investigation. Tout d'abord, vérifier le flux de fonds provenant de comptes appartenant à des citoyens indonésiens mentionnés dans les documents de Panama Papers. La deuxième, PPATK fera le groupement de la liste de noms basée sur la recherche prioritaire. Agus Santoso a dit, les noms qui sont inclus dans personnes exposées politiquement seront une priorité absolue, car ils ont l'obligation de transmettre le rapport des recherches des fonctionnaires d'État. La prochaine étape, PPATK coordonnera avec le groupe de travail de la sécurité des recettes fiscales et le groupe de travail des chasseurs de corrupteurs pour correspondre aux données et formuler des actions suivantes. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'alimentation typique de Bangil, nasi punel. Auditeurs, l'Indonésie se compose de différentes régions, dispose d'une variété culinaire qui peut être trouvée dans toutes les provinces indonésiennes, y compris la province de Java East. Bangil, un district qui est la capitale de Pasuruan, Java East, a une alimentation typique, c'est nasi punel. Serviteur, nasi punel provient de mot nasi poulen ou en français le riz de bonne qualité, à savoir le riz qui mûrit bien, pas trop sec et pas trop pâteux. Le riz punel est fait à base de riz en général. La différence est seulement de la façon de le cuire. Pour que le riz mûrisse bien, le riz qui a été lavé bien est trempé dans l'eau chaude d'environ 15 à 20 minutes. Alors, le riz est fait cuire dans l'eau comme d'habitude. Au début, le riz punel est seulement la nourriture vendue de village en village dans la matinée. Le riz punel, qui est emballé avec les feuilles de bananier, est de plus en plus populaire auprès du public comme aliment typique du petit déjeuner. C'est parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs, les vendeurs de riz punel ont finalement ouvert les étals sur la route. Parce que d'habitude, ces riz punel sont mangés dans la matinée, les étals de riz punel sont ouverts de 7h à 17h. Lors de déjeuner, les étals de riponel sont bondés également par les acheteurs. Serviteur, le riponel est un riz mélangé parce que d'habitude, il se compose d'une variété de plats d'accompagnement comme le tofu, tempeh, le poulet d'assaisonnement de Bali, sambal ou condiment des haricots longs et des morceaux des haricots longs crus mélangés avec de la sauce tomate épicée, la viande bovine frite, les tripes frites et les intestins de vache frites. Le riponel étant la nourriture typique de Bangil, peut être trouvé facilement dans un certain nombre d'endroits de la ville de Bangil, au long de la route de la côte nord, à savoir la route Gempol-Bangil-Pasuruan. Habituellement, les étals vendent nasi punel ne sont pas larges. Le prix d'un paquet de riz de punel avec une variété de plats d'accompagnement que vous le souhaitez est 10 000 à 20 000 rupiah. Jusqu'à présent, les vendeurs de nasi punel conservent encore des emballages enveloppés avec des feuilles de bananier. Chères auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre Nasi Punel, l'alimentation typique de Bangil, Java Est. Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec la rubrique de l'Indonésie en couleurs. Ce soir, nous discutons sur les caractères. De divers types d'écriture à partir de la composition des caractères qui existent dans le monde deviennent un moyen pour l'homme de communiquer. L'alphabétisation est un système de symboles visuels étant imprimé au papier et d'autres médias comme la pierre, le bois, le tissu et l'autre pour faire apparaître les éléments expressifs dans une langue. En autre terme, pour désigner le caractère et le système d'écriture. L'alphabet est un terme différent pour le type de caractère par classification fonctionnelle. Étymologiquement, le caractère est dérivé du sanskrit qui signifie quelque chose qui n'est pas exterminé, éternel et impérissable. Raconté comme durable en raison du rôle du caractère dans la documentation et la préservation d'un événement sous la forme de la communication écrite. À travers les caractères qui sont sculptés dans la pierre jusqu'à ce qu'écrit sur des feuilles de palmier et des plaques de cuivre, la tristesse et la gloire du passé peuvent être touchées à nouveau avec les preuves littérales. Les caractères d'archipel sont de diverses écritures utilisées à l'archipel pour écrire certaines langues de certaines régions. Le thème des caractères d'archipel est souvent associé avec les caractères résultats d'enculturation de la culture indienne avant le développement de l'islam dans l'archipel et avant la colonisation des nations européennes dans l'archipel. Une grande variété de médias d'écriture et d'instruments de papeterie est utilisée pour écrire les caractères de l'archipel. L'histoire a noté que le plus ancien caractère dans l'archipel, généralement en Asie du Sud-Est, est distribué avec la diffusion du bouddhisme. Le type de caractère a été initialement utilisé pour écrire des enseignements. Les mantras sacrés ou textes avec le type de caractère qu'ils utilisent sont appelés Siddhamatrika, en abrégé Siddham. Mais les chercheurs néerlandais préfèrent le terme Pranagari. Le type de caractère est ensuite cultivé en Asie du Sud-Est, bien que limité ou câblé, à écrire des textes religieux sur les médias de tablettes, droit de timbre ou stupika étant fait d'argile ou séché au soleil. Les objets textuels de ce type ne sont pas ou rarement accompagnés d'éléments calendriers. Donc, c'est difficile de déterminer la période avec précision. Cependant, par l'intermédiaire d'analyses paléographiques, la similitude de type de comparaison, le style, la forme des lettres de temps en temps, des lettres spéciales sur une tablette ou stupika trouvée en Asie du Sud-Est, est estimé à partir de la première à la troisième siècle de notre ère. Dans l'archipel, des objets comme celui-ci se trouvent à Sumatra, Java et Bali en utilisant le sanskrit. Conformément au temps et aux besoins de la société qui est plus moderne, les caractères peuvent être appliqués sur un plus large et sophistiqué média. Sans caractère, peut-être l'histoire et l'existence des monarchies dans le passé ne sera pas révélée. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur. Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici des chansons indonésiennes. Et cette fois, nous allons présenter des chansons pop chantées par Marcel Siahaan. Bon, on va écouter la première chanson intitulée La physionomie.
Akhirnya, bagai sungai yang mendalam.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix d'Ironésie diffusée depuis Jakarta. C'était la première chanson intitulée « Physionomie » chantée par Marcel Siahaan. Cette chanson est créée par Dewi Lestari, une auteure, compositeur et aussi romancier, qui est également l'ex-épouse de Marcel. Cette chanson est aussi chantée par d'autres chanteurs, entre autres Reysa. Depuis son enfance, Marcel a été familiarisé avec la musique. Sa passion pour la musique lui conduit à explorer des instruments de musique. Quand il est à l'école secondaire, Marcel a commencé un peu sérieux à la musique et il joue dans le groupe de Poupen avec le genre de musique underground. Ce groupe est siège à Bandung, Java West, et ensuite la communauté, surtout celle d'underground, connaît bien et devenu populaire. Le groupe de Poupen est aussi devenu l'une des légendes de musique underground Indonésie. Bien que Poupen est populaire, Marcel adore aussi à tous les types de musique, y compris contemporary pop. En 1998, il a décidé de quitter parce qu'il se sentait en Poupen. Il ne peut pas bien développer, du coup il voudrait se concentrer à ses études. Bon, cher ami, écoutez maintenant la deuxième chanson intitulée « Ne change jamais » chantée par Marcel Siahaan.
Yang ku rasa berbeda, mu janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh, oh cintaku. Oh,
Vous écoutez toujours la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train de chansons indonésiennes chantées par Marcel Siahaan. Il est né le 21 septembre 1977. En 2002, Marcel est connu par le public comme un duo avec une chanteuse Santi avec la chanson Hanya Memuji, tirée du premier album de Santi. En 2003, diplômé de la faculté de droit de l'Université catholique de Parahyangan, a lancé son premier album solo intitulé Marcel. Cet album a le genre de couleur urban pop. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, on va écouter deux chansons intitulées « En saison » et « Ne sera pas remplacé ». Tous les deux sont chantés par Marcel Siahaan. Merci à tous et à bientôt.
Simpan di hati.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Mampu mengubahku, hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Percayakan cinta yang tak harus memiliki. Pernah ku paksakan walau tak sejalan, meski ku tahu ku salah. Dan ku coba melupakanmu, karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku berhenti berharap akan cintamu yang dulu ada di hati. Coba untuk bertahan, walau berat kini ku berhenti berharap. Oh, kini ku akui hatiku tak bisa selalu. Meski ku tahu ku salah, dan ku coba melupakanmu, karena ku tahu kau bukan milikku. Dan ku akan cintamu yang dulu ada di hati. Dan ku coba untuk bertahan, walau berat kini ku berhenti berharap. Oh,
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.